marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine sur l'île de Madagascar. Nous donnons la parole au père Pedro, engagé depuis 30 ans contre la pauvreté au milieu des femmes malgaches qui œuvrent à ses côtés. Avec notre correspondante Sarah Teto, nous vous proposons le portrait d'un homme révolté, béni par le pape François le 8 septembre 2019.
Et là où nous avons tellement souffert, depuis 30 ans, là où l'homme n'était rien, l'être humain n'était rien, les enfants n'étaient rien, les gens mouraient, où il y avait violence, douleur, souffrance, vol, jalousie, voilà que le pape vient, qui marche avec vous sur ces rues que nous avons vues tant autrefois de douleur et de souffrance. Et lui, il est à côté de vous, il encourage les gens, il sourit, il bénit les gens. Ben, c'était un rêve, un rêve.
Cet homme a été nominé 5 fois pour le prix Nobel de la paix, élevé au rang de Grand Croix de 2e classe par le président de la République malgache, récompensé de l'ordre français de la Légion d'honneur. Le père Pedro a changé la vie de plus d'un demi-million d'êtres humains à travers tout Madagascar. Il a fait de la lutte contre la pauvreté et l'inhumanité le combat de sa vie. Pedro Opeka, de son vrai nom, est un missionnaire lazariste que le pape François a voulu saluer lors de sa venue sur la grande île située au large de la côte est de l'Afrique, face au Mozambique.
Le 8 septembre, quand il est descendu du papa mobile, on s'est confondus tous les deux dans une accolade comme deux grands frères. Et c'était quelque chose de spontané, de tellement fort et sincère. C'est inoubliable, cette accolade inoubliable. Et il m'a dit, tu vois, je t'avais promis que je viendrais te voir, je suis là. Le pape est venu pour dire, debout, ne baissez pas les bras. Dieu vous aime, Jésus est avec vous, nous sommes avec vous. On vous appuie, ne baissez pas les bras parce que vous êtes devenu, sans le vouloir, sans le chercher, vous êtes devenu quand même une lumière. Et il a dit que cette lumière qui est née ici, dans ces dépotoirs, puisse rayonner dans tout Madagascar et aussi à travers le monde. Voilà ce qu'il a dit.
Alors cette rencontre, elle a eu lieu à Manantenasu, le petit village qu'on voit qui est juste là-bas à Kamassou. Le pape François a dit « Ce village recèle une longue histoire de courage et d'entraide. Cette cité est le résultat de nombreuses années de dur labeur. » Il a vu 10 000 enfants, 10 000 jeunes qui étaient euphoriques dans l'église. Et puis après, il est allé prier pour les travailleurs de la carrière. Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous, mon père ?
Tout était marquant. Tout est marquant là. Et nous avons demandé, et je remercie les Saint-Pères d'avoir voulu visiter à Kamassou les enfants et en même temps les ouvriers. Voilà, ce sont deux piliers de notre travail à Kamassou. On a toujours dit que on va vaincre la pauvreté par le travail. Et on a mis sur beaucoup de murs ici, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Et si tu ne travailles pas, qui travaillera à ta place? Parce que tu dois manger et tu dois quand même faire l'effort de mériter la nourriture que tu manges. Et ensuite, le travail des enfants, c'est l'école, c'est l'éducation. Et là, et il a encouragé ces milliers d'enfants et de jeunes qu'ils dansaient, on dirait, comme un vent qui soufflait dans leur corps et qu'ils prenaient des formes extraordinaires. Et c'était d'une beauté que je ne peux pas expliquer, il fallait le vivre.
Dans l'église, là, le pape, devant ces 10 000 jeunes qu'on voit ici, il a parlé de dignité retrouvée. Et il a voulu rappeler aux jeunes que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ces paroles du pape François, c'est aussi les vôtres, mon père.
Bien sûr, mais nous venons d'une même d'un même pays, d'un même continent, où depuis longtemps, on était sensible à la justice humaine, à la justice des travailleurs, au partage juste de richesses pour tous les citoyens d'un pays, d'une nation. Et alors voilà, il n'y a pas de fatalité. La fatalité, c'est l'homme qui la crée. C'est l'homme qui tombe là-dedans et qui dit bon, « c'est comme ça, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer ». On peut changer, toute injustice peut être éradiquée. Et la preuve, c'est que nous l'avons fait. Et bon, voilà que lui, il a vu ici réaliser ce que lui-même a tellement souhaité. Une église au milieu des pauvres, une église blessée, une église qui s'émouille avec les plus pauvres, les enfants, les exclus de la société. Et ici, il a respiré. Il a respiré l'évangile. Il a respiré le message de Jésus, la vie de Jésus, l'action de Jésus. Et c'est pour ça qu'il se sentait à l'aise. Il était à l'aise, et moi aussi.
Cette visite du pape, ça a été une bénédiction, vous dites, mais une bénédiction aussi pour une autre personne que vous connaissez bien. Il s'agit de Madame Céine, une ouvrière de la carrière de pierre, une de ses mères courage d'Akamassou. Je vous propose de l'écouter.
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il soit venu ici. Le pape a un amour particulier pour les pauvres. Il nous aime personnellement, alors que nous sommes des gens qui avons été marginalisés par l'État, sans considération. J'étais la représentante de tous les travailleurs de la carrière d'Akamassou. Je lui ai serré la main.
En 1975 est l'année décisive pour le père Pedro, celle où il décide de s'installer définitivement à Madagascar. Celui qui est aujourd'hui de nationalité malgache est né en Argentine en 1948 et c'est à l'âge de 22 ans qu'il débarque sur la grande île. Il commence par partager la vie quotidienne des paysans, loin des séminaristes des villes. Et c'est la réalité du pays profond qui l'intéresse déjà. Au micro de Sarah Tetto, écoutez le témoignage de Madame Lalao. Elle est devenue l'un des piliers du projet Akamassou, initié par le père Pedro.
La première fois que j'ai vu Père Pedro, c'était à Vanganedjan. C'était en 1972, j'avais 6 ans. Il était assis sur le parvis de l'église. Je lui ai juste dit bonjour. Il avait des cheveux longs, châtains. Il avait l'habitude de jouer au foot. Il était connu pour être un bon joueur de foot. Dans mes souvenirs, mais j'étais petite, hein. Frère Pedro aimait côtoyer les jeunes. Il n'hésitait pas à aller vers les gens. Il était avenant, avec nos parents, avec les jeunes, avec les tout-petits-enfants. Il accompagnait aussi le curé de la paroisse en brousse pour aller rendre visite aux plus pauvres.
Ces Malgaches, vous les aimez profondément, mon père. Est-ce que c'est eux qui ont fini de vous convaincre de revenir vivre ici à Madagascar définitivement ?
Oui, en 1972, quand j'ai quitté Madagascar, j'ai découvert un peuple pauvre mais digne. Quelle dignité ! Le peu de choses qu'ils avaient, ils les partageaient entre eux. Et ils étaient respectueux de la vie, respectueux des personnes âgées, respectueux de ses ancêtres, respectueux envers l'environnement. Et ils étaient pauvres, mais dignes. Alors j'ai dit, quand je vais finir ma théologie, je vais revenir à leur donner un coup de main. Et quand j'ai fini la théologie à Paris, 1975, je t'ai ordonné prêtre. À Buenos Aires. Et je suis revenu à Madagascar. Aujourd'hui que je vous parle, je pense que je ne suis pas dans le même pays. Les valeurs des ancêtres, aujourd'hui, ils sont un peu perdus. Les chacun pour soi. Ce que j'ai vu, je peux dire aux jeunes malgaches qui sont nés après 1970, je peux leur dire comment ils étaient quand j'ai connu ce peuple de Madagascar qui m'a conquis le cœur. Et aujourd'hui, ceux qui ont dirigé le pays depuis l'indépendance ne se sont jamais souciés de la patrie, de la nation, de leurs citoyens, de leurs enfants, de leurs jeunes, de leurs personnes âgées. Ils se sont servis, n'ont jamais servi leur peuple. Et ça, c'est une blessure qui reste, ça fait pleurer.
Père Pedro, vous êtes un insurgé. On le voit bien, vous avez fait de la lutte contre la pauvreté, le combat de votre vie. Qui sont vos mentors? Qui sont vos modèles?
Mais le premier modèle, j'ai dit, c'est Jésus, le révolutionnaire.
Alors, à part Jésus, puisque ça, vous nous l'avez dit,
Oui, ensuite, c'est Saint-Vincent de Paul, c'est Saint-François d'Assise, qui a tout laissé pour tout partager avec les pauvres. Ensuite, c'est aussi un Martin Luther King, c'est Gandhi, Mandela, qui, après avoir souffert, n'a jamais demandé aucune vengeance. Il a su pardonner à leur bourreau. Et c'est Nyerere, c'est notre frère de Senghor, de Sénégal. Mais ce sont ces gens-là qui avaient un esprit plein d'amour envers leur frère, l'abbé Pierre.
Qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement
l'abbé
dans
ces
actions?
C'est sa force, sa détermination de servir leur frère en France. Et il est venu ici quand il avait 90 ans. Et il marchait avec nos enfants, on dirait qu'il volait, qu'il ne touchait pas terre. Et il était aussi un homme qui a su tout donner pour son peuple, qui avait un courage. Il n'avait pas la langue du bois non plus.
Comme vous, finalement.
Parce que nous croyons en l'Évangile, notre source est la même. On boit dans la même source, la source de la parole de Jésus, l'Évangile.
Vous citez des hommes, mais y a-t-il des femmes aussi qui vous ont inspiré, si ce n'est votre maman?
Oui, aussi Mère Teresa. Mère Teresa, cette femme qui était dans un autre pays aussi, en Inde, et qui l'a conquis le cœur des plus pauvres des pauvres, et qui les a accompagnés jusqu'au bout dans leur vie sur terre.
Dans le dernier ouvrage qui est sorti et qui parle de votre combat, de cette lutte contre la pauvreté, le livre de Pierre Lunel qui s'appelle « La cité d'espérance du Père Pedro », vous dites « Insurgez-vous avec les armes du cœur au nom de notre humanité ».
Oui, avec les armes du cœur, pas avec les armes qui tuent l'être humain. Parce qu'ensuite, vous ne pouvez rien faire, il est mort. Nous avons la même humanité. Nous avons tous du sang rouge. Personne n'a du sang bleu ou du sang jaune ou du sang violet. Nous avons le sang rouge. Nous appartenons tous à la même famille humaine. Et si nous voulons créer un monde où on peut vivre ensemble, mais il faut que on se respecte d'abord. Nous sommes nés pour servir, pour aimer, et non pas pour se servir et s'aimer soi-même.
Vous êtes aussi un révolté contre les ONG ou plutôt contre l'assistanat. Regardez ce que vous disiez.
Malgré les sommes impressionnantes mises en jeu, combien d'enfants l'UNICEF a-t-elle sorti de la rue? Oui, mais que mes frères d'UNICEF me pardonnent, j'ai rien contre eux, mais qu'ils soient plus près des enfants oubliés dans le fond de la brousse à Madagascar, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, ou que ce soit. Alors, je les encourage à continuer. C'est pas une critique, mais c'est un souhait. Parce que cet argent-là vient des contribuables. Les Nations Unies, c'est l'argent qui donne tous les pays du monde pour qu'ensuite ça revienne au peuple. Et surtout aux enfants. Et surtout aux plus exclus. L'extrême pauvreté, c'est une prison qui tue l'âme. Qui tue l'âme et qui tue l'esprit, qui tue les valeurs d'un peuple.
Père Pedro, vous avez le poing levé en permanence, cette révolte, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez transmettre en fait aux gens qui vivent avec vous, autour de vous, ici à Kamassou?
Bien sûr, mais c'est là, ça n'arrive pas par un décret. Aujourd'hui, si je peux lever la voix, c'est que derrière nous, il y a un peuple qui s'est mis debout. Et c'est ce peuple-là qui me force à parler en leur nom. Ici, je vous dis, on peut changer, on peut vaincre la pauvreté, la misère, pour que tous les frères d'Afrique, sœurs d'Afrique, aient une vie plus digne.
Non mais vous dites parler en leur nom, mais vous incitez aussi les gens d'Akamassou à parler en leur nom
mais
propre, sans vous.
Oui, bien sûr, je les cite, mais il faut qu'ils aient le courage. Et ceux qui ont pour le moment ce courage-là, ce sont des femmes. C'est là, ça doit se faire partout dans tous les pays du monde. Mais je voudrais dire à mes frères qui nous écoutent, il ne faut pas venir à Kamassou pour dire « Ah, je voudrais apprendre comment vous faites ». Ça ne s'apprend pas. Ça se sent. Et quand vous le sentez, cette force, cette envie de faire du bien, de faire justice, de vous mouiller, vous engager pour vos frères, allez doucement. Parce que nous, on a fait pas à pas.
Moi, 30 ans.
50 ans.
50 ans pour le Père Pedro,
l'année
30 ans
à Kamassou. À Kamassou.
Dans ton amour inébrisable, Dieu de miséricorde, tu combles le cœur de tous ceux qui confient en toi. Tu combles de bonheur, de joie, à tous ceux qui croient à ton amour. Puissions-nous, tes enfants, partager cet amour que tu fais passer à travers chacun de nous ici présents. Dieu d'amour, tu n'as pas de main, tu n'as pas de pied, tu n'as pas de bouche, mais c'est nous qui avons des pieds, des mains, des bouches, pour pouvoir transmettre, partager ton amour à tous nos frères et sœurs. Riantiamante repetitiavano, rifanano mitam siglant, ali diulum bella iano, diraita fazzara diazzara, islami vete.
Madagascar, la moitié de la population a moins de 20 ans et 90% des Malgaches vivent avec moins de 2 dollars par jour. Pour survivre, les enfants doivent parfois voler, faire les poubelles, fouiller les décharges. Leur mère les élève souvent seule et certaines d'entre elles, à l'image de Madame Zhu, espèrent donner un meilleur avenir à leur famille dans les villages Akamasu du Père Pedro.
Je travaille ici à Kamasu. Je suis en charge d'arroser le terrain de foot. Quand j'ai fini, je monte à la décharge, de nuit comme de jour. Je recherche des boîtes, des eaux, des bouteilles en plastique, des bouts de charbon, et ensuite je vais les revendre. Les eaux et les bouteilles en plastique, ça intéresse les fabricants de médicaments traditionnels et les vendeurs de rue, et ça me rapporte un peu d'argent. J'y vais toute seule. Je ne veux pas que mes enfants m'accompagnent. Je ne veux pas qu'ils fassent le même métier que moi.
Plus de 10 000 visiteurs venus du monde entier sont déjà passés par Akamasu. C'est un véritable Éden dans la capitale, à Antananarivo. Ici, les ruelles sont proprettes, colorées, bien pavées, avec tout le nécessaire, des épiceries, des pharmacies, des dispensaires, des écoles, des universités et même des terrains de sport. Et sans cesse, il y a de nouveaux projets. Mais comment la création d'une ville au service des plus pauvres est-elle née dans l'esprit du Père Pedro? Quelle expérience a été pour lui fondatrice? Pour la marche du monde, Sara Teto lui a posé la question.
Un malade ici m'a demandé de venir le rendre visite et prier. Et j'ai dû passer par la décharge. Quand j'ai vu la décharge, des centaines d'enfants sous la décharge qui se disputaient des ordures avec des animaux qui étaient là, je suis resté muet. J'ai subi un électrochoc. J'ai dit, ici, je n'ai pas droit à parler. Ici, il faut agir. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levé. Je me suis mis à genoux sur mon lit. J'ai levé les mains et j'ai dit, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Je n'étais pas connu. Je n'avais pas d'argent. Et là, je dis, je suis prêtre. Ah bon, tu es prêtre? Je dis, est-ce qu'il y a un comité? Il y en a, tu peux le chercher. Il est cherché un comité. Assis par terre, dans cette maison, d'un mètre trente, un mètre quarante d'hauteur, des cartons, des plastiques, est né ce mouvement d'Akamasu. Nous ne sommes pas une association, nous sommes un mouvement de solidarité. Quand je dis, si vous aimez vos enfants, je suis prêt à vous aider. Parce qu'il y en a trop qui sont morts, surtout ici à la décharge, surtout ici à la décharge. Voilà où est né Akamasu.
Donc finalement, Akamasu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une méthode, c'est venu au fur et à mesure, vous
Exactement.
L'avez inventé.
Nous l'avons inventé de toutes pièces et ça peut se faire partout. Akamasu, ce n'est pas d'abord une procédure. Akamasu, ce n'est pas d'abord des réunions à plus finir. C'est d'abord l'action, l'action. Mon bureau, c'est la rue. Là où je trouve un pauvre, je ne vais pas le dire, viens me voir au bureau demain matin à 9h. Non, là où je trouvais ces pauvres-là, je lui dis, quel est ton problème, mon frère? Et j'appelle tout de suite quelqu'un qui est autour de moi, je dis, viens chercher une solution à cette famille-là. Tout de suite, tout de suite. Personne ne veut dire, venez demain, venez demain. On est fatigué. Si on peut le faire aujourd'hui, on doit le faire. Alors voilà, nous, on travaille au milieu d'un peuple, avec un peuple et pour les enfants. Voilà, voilà notre force.
Akamasu, pourquoi ce nom, justement?
Ça veut dire, oui, les bons amis, les amis fidèles. les gens qui ne vous trahissent pas, les gens qui restent avec vous jusqu'au bout, malgré tous les problèmes et tous les échecs de votre vie. Quand nous avons vu que ça va durer, j'ai dit, mes frères, ce travail-là, ce n'est pas un travail d'un an, deux ans, ça va durer ça. Alors j'ai dit, créons face à l'État quelque chose de juridique pour qu'on puisse acheter des terres. Mais nous, on s'occupe de tout, de l'accueil, de l'école, de la santé, des créations d'emplois, des frais de logement, d'adduction d'eau, de l'énergie, planter des arbres, des milliers d'arbres tous les ans, du sport. Et on s'occupe aussi d'enterrer nos frères. Nous avons 4 cimetières. Vous connaissez un ONG qui a 4 cimetières. Notre ville est sans frontières. Nos cimetières sont sans frontières et sans aucun préjugé. Quelqu'un nous demande d'être enterré chez nous, on le reçoit et on l'enterre avec la tradition malagasse qui est de respecter les razans, respecter les ancêtres. Et quand les gens ils ont vu qu'on le respecte même mort, c'est là qu'ils ont cru. Et plus de 4000 personnes de plus pauvres que j'ai enterrées ici, ce sont mes gardes-corps au ciel et sur terre. C'est eux qui me gardent, qui me protègent, ces ancêtres-là.
Parler de la philosophie d'Akamasu, c'est un espèce de contrat moral que vous passez, vous,
oui.
Avec oui. Les bénéficiaires. Racontez-nous.
Bon, nous, on n'a pas de philosophie. Hein. Nous, c'est seulement l'amour, c'est la compassion et c'est le travail.
Mais avec certaines règles et certains codes. Alors racontez-nous
oui,
justement.
Les codes, c'est d'abord, quand je les ai demandés, puisqu'on va vivre ensemble, je dis, dites-vous, qu'est-ce qu'il faut tenir compte? Quelles sont les règles, les conventions, les dînes qu'il faut pratiquer et qu'on va voter à main levée? Ils ont commencé d'abord, ne pas voler. Nous avons fait 20 dînes, 20 règlements. Et ils commencent pour ne pas voler, parce qu'un pauvre dit, je suis obligé de voler pour survivre. Bon, aujourd'hui, ici à Akamasu, personne n'a besoin de voler, parce qu'il a toujours, il peut avoir un travail. Et c'est par le travail qu'il va acquérir son salaire et qu'il va être fier de pouvoir être comme tous les ouvriers du monde entier. Bon, nous ne sommes pas une entreprise. C'est une aide qu'on donne, ce n'est pas un salaire. Mais il est content parce qu'il sait qu'il n'est pas exploité, parce qu'il sait qu'on travaille pour lui.
Et qu'on retrouve sa dignité par le travail. C'est ça qui vous importe,
oui,
vous, beaucoup.
Il peut aujourd'hui, il est comme tout le monde. Il travaille, il n'a pas besoin de demander à personne rien. Il peut économiser. Le peu qu'il a, il économise pour la nourriture, pour les vêtements, pour les médicaments. Mais comme ce n'est jamais assez, parce que la vie est très chère à Madagascar et en Afrique, nous avons une caisse maladie qu'on peut aider ces personnes qui travaillent déjà.
Donc le travail, qu'est-ce qui est proposé à Akamasu?
À Akamasu, nous avons deux carrières, où les gens cassent la pierre, et nous avons besoin de la pierre pour construire. Les routes, les fondations, les moellons, les pavés, les pierres plates, les gravillons, les sables des carrières, tout cela sert à la construction. Nous avons aussi les ateliers de bois, la menuiserie, nous avons aussi ateliers métalliques. Nous avons aussi des équipes spécialisées qui posent des panneaux solaires dans tout Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles énergies, il faut y entrer. Ensuite, le service communautaire. Nous avons plusieurs cantines scolaires. Nous avons le centre d'accueil, où il faut aussi accueillir tous les pauvres qui viennent. Nous avons des personnes qui gardent les malades, parce qu'il y a des gens qui ont perdu toute la famille. Quelqu'un doit les garder.
Il y a la décharge aussi.
Il y a la décharge. Malheureusement, il y a encore quelques centaines de nos frères et sœurs qui vont toujours à la décharge, parce que les ordures, si j'étais là, ils étaient habitués à cela. Je ne peux pas les sortir par la force. Mais il y avait combien de gens qui sont morts ici dans la décharge? Combien?
Donc le travail, ça on le comprend bien. L'école, un des fondements d'Akamasu.
Bien sûr, l'école. Les enfants doivent aller à l'école. C'est obligatoire à Akamasu. Parce que si les enfants ne vont pas à l'école, ils seront plus pauvres que leurs parents. Et on ne peut pas sortir ensuite du cercle vicieux de la pauvreté, de la misère. Sans l'école, pas de progrès. Voilà, ça c'est notre doctrine, c'est notre foi, c'est notre règle ici.
Et ben justement, vous parlez de doctrine, mais cette doctrine, parfois, elle a des limites. On écoute Madame Lalao, celle qui vous a connue toute petite et qui vous a retrouvée ici à Tana dès le début de l'aventure à Kamassou. Aujourd'hui, elle est responsable des écoles maternelles et primaires de Manan Tenasu, l'un des 22 villages, et elle supervise 3000 enfants.
L'objectif d'Akamassou, c'est que les parents travaillent pour qu'ils ne retombent pas dans l'extrême pauvreté qu'ils ont connue et que tous les enfants soient scolarisés. Mais la difficulté, c'est que certains n'ont pas l'habitude d'aller en classe. Ils préfèrent jouer dehors. D'autres avaient pour habitude de mendier dans les rues avec leurs parents. C'est pourquoi ils retournent dans la rue plutôt que d'aller à l'école.
Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit, Madame Lalao?
Mais oui, mais le problème, c'est que ces enfants, ils veulent revenir à la rue parce que leur papa, il boit, leur maman aussi, il boit. Et la formation, l'éducation, c'est fait dans la famille d'abord. Tout ce qu'il a appris à l'école, il est détruit la nuit. Quand il va chez lui, l'enfant et son papa, qui est violent, et qui lui dit « Pourquoi tu vas aller à l'école? Va pour chercher de l'argent dans la ville. » Alors il décourage. Et ces enfants-là, ben, ils ont peur de leur père, pas de l'institutrice ou de l'instituteur. Mais nous allons chercher ces enfants dans la rue. Et nous avons quand même gagné à plus de 80%. Des gens qui étaient dans la rue aujourd'hui sont debout. Et il nous reste 20% qu'on essaye de le faire revenir. Et chaque fois que les enfants s'échappent dans la ville, nous allons les chercher. Nous allons les chercher.
Travail, école, mais aussi un toit. Et ça, c'est hyper, hyper important. Vous, le fils du maçon.
Quand vous n'avez pas un toit, quand vous n'avez pas un chez vous, un chez soi, mais vous n'êtes pas une famille. Alors, vous êtes tout le temps en train d'être expulsé, et vous vivez toujours dans une grande nerviosité. Eh bien, le toit, c'est un droit qu'ils ont tous les citoyens de tous les pays du monde. Tout ce que dirige le pays doit avoir un plan pour urbaniser d'abord et pour créer des logements sociaux.
Et comment ça se passe ici à Kamassou? Est-ce que c'est des dons de maisons? Comment ça se passe?
Les maisons que nous faisons, pour les plus pauvres, pour ceux qui étaient dans la rue et qui n'ont aucun moyen de s'acheter une maison, nous construisons, eux participent, et ensuite ils prennent parti pendant 5 ans, ils vont payer un loyer. Et si cette famille-là respecte les dina, les conventions, qui les enfants étudient, qui prennent parti dans les travaux communautaires et qui savent vivre ensemble, cette maison reste pour eux. Ça, c'est leur maison. On n'a pas donné maison pour les chasser après.
Quand vous dites les bénéficiaires payent un loyer, qu'on s'entende, hein, oui. C'est un loyer extrêmement modeste.
Modeste, parce que
6 000 arrières, 1,50 €, bah oui, pour certains.
Hein. Oui, parce qu'ils n'ont pas plus que ça. Ils n'ont pas plus que ça. Ils gagnent 30 € par mois. Comment voulez-vous qu'ils perdent plus? Nous sommes ici pour servir les plus pauvres, ceux que l'État avait oubliés totalement.
N'importe qui peut venir toquer à Kamassou et sera reçu? Ou est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir venir vivre parmi vous?
Il y a un critère. S'il y a quelqu'un qui vient de la campagne il y a une semaine et qui vient ici, on va l'aider à revenir chez lui. On va lui dire, rentre chez toi parce qu'ici tu vas couler et tu vas être plus pauvre que chez toi. Tu peux rester quelques jours ici, le temps qu'il faut. Et tu vas rentrer, on va t'aider à rentrer, on va te donner aussi des outils de travail pour que tu travailles la terre. La ville était faite pour 400 000, 500 000 habitants, nous sommes 3 millions d'habitants.
Ici en Tananarive.
À Tananarive, pas d'infrastructure, pas d'eau, pas de maisons, pas de routes, pas de canalisations, il n'y a rien. Alors il faut empêcher l'exode rural, empêcher. Sinon, nous accueillons les femmes seules, avec des enfants, qui étaient abandonnées par leur mari. Il y a 60%. Des femmes seules qui frappent à notre porte, et quand c'est une femme seule avec des enfants, on les reçoit toujours. Et ensuite, nous devons acheter les terrains. Nous avons acheté des terrains.
En parlant de ces maisons, de ces terrains, il y a 20 ans, au micro de l'un de mes confrères de RFI, vous disiez ceci, mon père.
Pour le logement, nous avons mal à trouver des financements. Et je pense que sans un logement, une famille ne peut pas être une famille. Une famille a besoin pour se reconstituer, a besoin d'un chez-soi. Il faut qu'il y ait sa maison. Et dans cette maison-là, il va recommencer à vivre en famille. Alors nous nous battrons tout le temps et nous devons faire à Akamatsu 1500 logements d'ici à 5-6 ans.
C'est en 1998. Est-ce que vous les avez fait, ces 1500 logements en 5-6 ans?
Oui, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, voilà.
Combien de maisons aujourd'hui?
Tout près de 4000 logements. Et nous continuons tous les ans à faire plus de 100 logements par an. Et nous ne voulons pas descendre de ce nombre-là. Nous voulons plus, mais pas moins.
On a tendance à parler des villages du père Pedro, mais vous dites qu'Akamatsu s'est construit à plusieurs. Autour de vous, il y a votre garde rapprochée. Vous me disiez tout à l'heure 500 personnes, des femmes essentiellement.
Oui, 80% des femmes. À Madagascar, en Afrique et aussi dans d'autres pays en Europe. Mais c'est les femmes qui ont le plus de courage. C'est les femmes qui sont les plus persévérantes. C'est les femmes qui sont les plus honnêtes. Et quand vous leur donnez l'argent, mais quand ils achètent quelque chose, ils vous rendent ce qui est resté de cet achat-là. C'est les femmes à qui j'ai fait confiance. Mademoiselle Bao, Mademoiselle Tutsu, Madame Lalao, Madame Emmanueline, Madame Saunja, Madame Wangi, Madame Simone, Madame Odette, Mademoiselle Christine, Madame Adeline, Mademoiselle Véronique.
Qu'on entend tout de suite d'ailleurs.
Mes premiers souvenirs ici à Akamatsu, c'est quand j'ai pu aller à l'école. J'ai pu porter des vêtements propres et j'ai pu manger régulièrement. Père Pedro a donné du travail à ma maman et elle est devenue casseuse de cailloux. En 2013, après le bac, je souhaitais toujours devenir religieuse. Ma mère et moi sommes allées discuter de ça avec Père Pedro. Il m'a dit « Véronique, tu es une enfant d'Akamatsu. Si tu veux aider les pauvres, tu dois agir ici, au sein de notre communauté. » Mais pas dans un couvent. Pendant un ou deux ans, j'ai réfléchi. Je voulais encore rentrer dans les ordres. Et c'est le père qui m'a convaincue que je ferais le plus de bien en œuvrant au milieu des pauvres qu'en m'enfermant dans un couvent. Le père m'a dit, et ça m'a fait rire d'ailleurs, « Ce ne sont pas tes habits, ton voile, ta robe qui font de toi une sœur, mais ce que toi, tu as au plus profond du cœur et la sincérité de tes actes. » Et c'est ça qui m'a vraiment convaincue. Maintenant, je suis heureuse d'avoir fait le choix de travailler ici.
Aujourd'hui, mademoiselle Véronique, le père Pedro, qui il est pour vous? Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie?
Père Pedro,
le père Pedro, pour moi, c'est Dieu personnifié.
Père Pedro,
parce que lui, il a montré de l'amour pour moi et pour tous les habitants d'Akamatsu. Il aide les gens pauvres en toute sincérité. Il a laissé sa famille biologique, il a montré de l'amour et a donné une éducation, non seulement pour les gens d'Akamatsu, mais dans tout Madagascar. Il est ma fierté, c'est mon père. Mon père spirituel.
Mon père Pedro.
Je vous sens un petit peu émue.
Oui, je suis émue. Il est vrai que j'ai un père et une mère, mais je n'ai jamais ressenti d'amour aussi fort que celui que m'a donné le père Pedro durant ces 6 dernières années de travail à ses côtés à Akamatsu. Tu nous as sauvés, mon père, ma famille et moi, de l'extrême pauvreté. Je suis devenue une nouvelle personne grâce à toi. Je vis dans la joie et dans la paix.
Hommage vibrant de mademoiselle Véronique au père Pedro, mais aussi hommage du père Pedro à celles et ceux engagés dans la lutte contre la pauvreté à ses côtés. Parmi eux, de nombreuses femmes dévouées pour la communauté. Je vous propose d'écouter le témoignage de Madame Seenou, une vraie maman courage.
Je me lève le matin, je prie Dieu de me donner la force. Je travaille dans la joie et la bonne humeur. Malgré la rudesse de mon métier, je le fais par amour pour mes enfants. Il y a des mineurs qui cassent la roche de la grosseur d'un melon.
Moi, je récupère ces gros melons au fond de la carrière, je les porte sur ma tête, je les remonte ici et je les casse pour en faire des gravillons à l'aide d'une masse. Je gagne en moyenne 15 000 arrières par semaine, alors qu'avant à Kamassou, quand j'étais brodeuse, je gagnais juste 6 000
arrières.
J'arrive à la carrière à 6 heures du matin, je repars le soir à 18 heures, et ça du lundi au vendredi. C'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Je sens que je n'ai plus la même force qu'avant. Alors mes enfants viennent m'aider quand ils sont en vacances, comme aujourd'hui, ou alors ils me retrouvent après l'école, à 16h30.
Vous pouvez nous montrer vos mains ?
Mes mains sont abîmées, mes pieds aussi, surtout en hiver. Mais je montre à mes enfants que c'est grâce à mes mains, ces mains-là, qu'ils peuvent aller à l'école.
Prions pour que tous ceux qui sont les élus de chaque nation puissent être les garants de la justice pour chaque citoyen, et surtout pour ceux qui sont le plus pauvre, le plus fragile de leur société. Les pays sur notre terre travaillent pour la paix, pour tous et chacun des enfants sur cette terre. Prions le Seigneur.
D'abord, on vit quelque chose de très fort tous ensemble, nous, peuple de Dieu. Dieu, il est père de tous les humains, et ce Dieu-là, on peut l'appeler de différentes manières. Mais nous sommes tous les enfants d'un seul Dieu, et que ce Dieu-là, il est amour. Et personne ne peut le monopoliser, personne. Nous, à notre messe d'Akamassou.
Alors, ça se passe où là-bas?
C'était un hangar où on faisait les baskets. Et ensuite, bon, on a dit, bon, on va prier là.
En quelle année ça?
1994-95. Et ensuite, cet hangar-là, on l'a couvert et on l'a agrandi 4 fois. Ils peuvent arriver jusqu'à 10 000 personnes, mais pas aux normes européennes, hein, aux normes à nous ici. Et là, il y a une telle ambiance. Et là, je sens que les gens, ils ont besoin d'être ensemble, besoin de prier. Là, nous créons une liturgie où les gens se sentent à l'aise. On écoute la parole de Dieu, on loue la parole de Dieu, et on amène les offrandes en chantant, en dansant, avec des danses élégantes. Les peuples malagasy dansent avec une élégance extraordinaire, comme beaucoup de pays d'en Afrique aussi. On doit louer Dieu avec la culture d'un peuple. Moi, blanc, je me suis laissé imprégner par leur culture. Et je laisse faire. Quand je vois que c'est beau et que ça rend les gens heureux, eh bien, il faut laisser faire.
Avec quel mot vous commencez la messe ?
Chers frères, chers amis, on est là pour vivre l'amour de Dieu. On est là pour se donner la force les uns les autres. Tous les dimanches, j'ai dit cela. Riavana malala rirala riana bavisan. Et tu sais que je en diamant, m'en pivouri en tsiketu. Ba ou sambats, ba mienu tena diamants, arriba mitumbu, ni fifanazana, fifanampina, si fifankatiavana, ampsika samsik.
Vos homélies, elles sont en malgache. Qu'est-ce que vous racontez à vos fidèles?
J'essaie de ne me répéter jamais. Parce que si je me répète, tout le monde va dormir. Il dit, on sait ce qu'il dit. Et je demande à l'Esprit Saint, aide-moi pour que je ne me répète pas, pour que je trouve un mot qui puisse trouver un écho dans le cœur de mon frère, de ma sœur et des enfants. On ne fait pas de la philosophie, on ne fait pas de la théologie dans l'homélie. On explique la parole de Dieu appliquée aux problèmes d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui. On cherche comment faire pour que tout le monde participe, pour que personne ne se sente exclu de cette Eucharistie, de cette prière qui doit être une force, un courage pour les gens qui sont là.
Quel est l'épisode de l'Évangile que vous aimez particulièrement utiliser ou qui correspond, on va dire, à... Alors, je sais que vous n'aimez pas ce mot, philosophie, mais moi, je vais le dire quand même, à cette philosophie d'Akamatsu.
Mais il y a plusieurs. Il y a les béatitudes, heureux les pauvres du cœur, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils seront libérés. Et ensuite aussi, j'aime quand Jésus dit « Je vous donne un nouveau commandement, un nouveau, un seul. Aimez-vous les uns les autres. » Voilà, Jésus met les points sous les i. Ne soyez pas hypocrites. Seule la vérité vous rendra libre. Voilà un autre mot qui me travaille toujours.
Est-ce que justement, ce moment de l'homélie, c'est un moment durant lequel vous pouvez encourager les fidèles à se révolter ou à s'indigner contre le manque de considération, parfois de l'État ou du pays envers les plus pauvres?
Bien sûr, Jésus, il est un insurgé parce qu'il ne peut pas s'habituer à l'injustice, à la hypocrisie, aux vanités du monde. Comme il y a des gens qui parlent avec éloquence pour rien dire. Jésus a parlé simplement. On peut dire des choses vraies, profondes, avec des paroles simples. Et celui qui fait cela, c'est le vrai sage.
Est-ce qu'on peut dire que vous faites un travail de conscientisation des masses ?
Bien sûr, bien sûr. Pour moi, ce n'est pas une masse, c'est un peuple. Pour moi, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un père, c'est une mère.
Si Akamatsu est une cité de l'espérance, son modèle économique est dépendant de la générosité des donateurs fidèles, présents dans le monde entier. Et c'est grâce au pouvoir de conviction du Père Pedro que les villages continuent de fonctionner 30 ans après leur création. Une ville au service des pauvres peut-elle ou doit-elle devenir autonome financièrement?
Mais comment être autonome quand l'État même n'est pas autonome? Parce qu'il n'y avait pas une bonne gestion, parce qu'il y avait trop de corruption, et parce que les politiciens arrivent au pouvoir en payant les gens, en faisant des dettes. Et ensuite, ils doivent rendre à ceux à qui ils ont emprunté de l'argent. Ça veut dire qu'on est déjà entré dans un chemin qui n'est pas du tout sain. Mais nous, au moins, nos enfants vont à l'école, ils ne sont plus dans la rue. Les parents qui étaient des mendiants, ils travaillent dans la carrière, ils construisent leur maison, leur ville, leur route, leur caniveau, leur assainissement. Mais notre but, c'est l'autonomie, l'autosuffisance. Et je le répète tout le temps, pas d'assistanat. Et celui qui travaille mérite un salaire, voilà. Et c'est ce salaire-là que je veux chercher dans le monde entier. Nos mécènes ne sont pas les grandes institutions, ce sont les gens simples. Moi, je n'ai pas le temps de perdre avec les grands organismes internationaux qui me demandent des explications d'un plus finir et que 18 mois après me disent « votre projet est réfugié ».
L'État n'a jamais rien fait pour les plus démunis. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Zhou, notre travailleuse à la décharge.
Pour les plus pauvres, l'État qui se sont succédés, ils n'ont pas fait grand-chose. Il a tout à fait raison, mais c'est elle qui l'a dit. Hein. Moi, je ne peux que confirmer.
Et elle dit aussi cette autre phrase très forte, « Père Pedro, il fait le travail de l'État ».
C'est certain, mais pour les plus pauvres. Et pour eux, je lève ma voix. Mais je ne cherche pas la bagarre contre personne. Ma bagarre, mon ennemi, c'est la pauvreté. Mon ennemi, c'est la misère, c'est l'égoïsme, c'est la corruption. C'est celui qui ment à son peuple. Ce n'est pas une telle ou telle personne, parce que ce sont aussi mes frères. Et je voudrais bien que mes frères, qui ont une responsabilité dans l'État, qu'ils soient à la hauteur de cette responsabilité. Qu'ils sachent qu'un jour, Dieu, Père de tous les humains, va juger mon frère, un chef d'État. Il doit se soucier d'abord, pas de ceux qui sont les plus riches, mais de ceux qui sont les plus faibles de la société, ceux qui s'étaient les oubliés. Sans oublier les autres, parce qu'il dit, il va dire, mais c'est eux qui créent l'emploi, ceux qui créent la richesse, et si nous, on n'aide pas celle-là, les autres n'auront rien non plus. Mais il faut créer un dynamisme de fraternité. Il ne faut pas faire la mondialisation des finances, de l'argent, des dollars et d'euros. Il faut faire la mondialisation de la fraternité, la mondialisation du partage juste.
L'après-Père Pedro, vous y pensez ?
Déjà, le pape François m'a dit, quand il m'a reçu à Rome, il m'a dit « Petit père, est-ce que tu penses à ta succession ?» J'ai dit « Saint-Père, j'y pense en donnant le bon exemple. » Parce que ça, c'est un charisme. un charisme que Dieu m'a donné, de pouvoir parler aux gens. Ce que j'ai acquis d'expérience de ma vie, de ma famille, partout où je suis passé, ce n'est pas une veste que je peux passer à un autre, de prendre ma veste et continuer à diriger.
Alors j'entends, ce n'est pas une veste qu'on peut donner, mais la relève, est-ce qu'elle existe? Si le père Pedro ferme les yeux un jour, qu'est-ce qu'il va advenir d'Akamasu?
Mais l'Akamasu va continuer parce que la relève est là. Déjà, mes coéquipiers autour de moi, sur les 500, il y a déjà 300 qui sont des enfants qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, ils sont des médecins, ils sont des sages-femmes, des professeurs. Et parmi ceux-là, c'est après qu'ils vont se réveiller, quand ils vont à tout ce que j'écris, ça reste. Mais cette relève-là n'est pas automatique. On dit à Madagascar, « Adinifienana, la vie, c'est un combat, c'est une lutte. Ça ne sera pas facile, mais j'y crois. »
Vos idées vous survivront et survivront malgré la situation économique actuelle de Madagascar.
Oui, le bien ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Les vraies valeurs ne meurent jamais.
Si un jour Père Pedro disparaît, personnellement, je suis prête à poursuivre sa lutte, à continuer à vivre au service de Dieu, à servir les plus pauvres. Cette mission, c'est Père Pedro qui l'a commencée. Il marche sur les pas de Jésus. Et nous, nous marchons sur les pas de Père Pedro, tous les jours, tous les jours.
Chaque frère, chaque sœur a des qualités, a des valeurs, a des talents. N'ayez pas peur de les exprimer. Sans dominer l'autre, sans écraser l'autre, sans faire de la compétitivité. Voilà un mot que vous aimez tellement en Europe. Compétitivité, ça veut dire écraser l'autre. Soyez plus fort que l'autre. Jésus a dit que le plus grand soit le serviteur des autres. Moi, je ne fais ici que mon rôle à moi de frère. S'ils ont trouvé quelque chose dans ma vie, moi je dis mon frère, continue à le faire à d'autres frères, pour que cette chaîne de fraternité ne se brise jamais.
Père Pedro, 30 ans de lutte contre la pauvreté. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde proposé par Valérie Nivelon, réalisé par Sophie Janin et signé Sarah Tétou, notre correspondante à Madagascar. Je remercie chaleureusement le Père Pedro et toutes ses équipes du projet Akamasu pour avoir partagé avec vous, chers auditeurs, leur expérience et leur croyance pour un monde plus juste et plus humain où la pauvreté serait éradiquée. Plus d'infos sur notre page RFI La Marche du Monde et bien sûr sur nos pages Facebook et Twitter. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Merci Seigneur pour ce moment de joie que tu nous as donné à vivre ce jour dimanche qui t'est consacré.